Le silence à silence, c'est pas trop bon. Rien du tout. Là, il y a du bruit, là.
Bienvenue dans Récréation sonore sur Radio Campus Paris, Muriel Caes au micro ce soir.
Allô.
There is no such thing as silence.
Le silence n'existe pas.
Allô, c'est bien.
Something is always happening that makes a sound.
Il se passe toujours quelque chose qui produit un son.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Nous continuons à découvrir de nouvelles autrices, toujours du côté d'Angoulême avec le Créadoc, dont décidément les dernières promotions sont vraiment une mine. Aujourd'hui, Céline Grillon nous propose « Avancer à reculons ». Nous découvrirons ensuite une pièce musicale composée par Elio Volana, élève de la classe d'électroacoustique du Conservatoire de Pantin. Partons d'abord dans l'univers du tango, la musique, mais surtout la danse. Et derrière cette danse, où les couples avancent à l'unisson, où les pas semblent s'improviser dans la connexion permise par l'étreinte, qu'est-ce qui se joue dans les rapports entre danseurs et danseuses? C'est muni de cette question que Céline Grillon a choisi d'aller à la rencontre de danseuses dans sa pièce « Avancer à reculons ». Céline, est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs de Radio Campus Paris?
Oui, alors bonjour les auditrices et bonjour les auditeurs. Je m'appelle Céline Grillon. Je suis née à Paris il y a 36 ans maintenant. Je suis venue au documentaire sonore un peu tardivement puisque j'ai eu une première vie professionnelle dans le secteur humanitaire. J'ai travaillé dans le secteur de la santé pendant une dizaine d'années et j'ai décidé de me former à la réalisation sonore à partir de 2001-2002. Je me suis inscrite et donc je suis allée au master de création, d'écriture et de réalisation documentaire Créadoc à Angoulême, qui est connu pour dédier toute une année à l'étude et au travail documentaire par le son. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au documentaire sonore. J'ai réalisé quelques pièces documentaires jusqu'à maintenant. Celle qu'on va écouter, c'est mon travail de fin d'année de Master 1.
Ok, donc on va écouter « Avancer à reculons » et puis on en reparle après. C'est une intimité. Quand on voit cette intimité dans le mouvement de l'extérieur, on pense automatiquement que c'est une intimité sensualisée et sexualisée. Et dans la vie de tous les jours, on a tellement peu de situations dans lesquelles on vit une intimité, surtout entre les genres, qui n'est pas sexuée, qu'on n'arrive même pas à l'imaginer. Et donc du coup, nous, les gens de tango, on nous pose des questions, mais est-ce que la personne avec qui tu danses, tu le désires toujours? Mais non, dans la plupart des cas, je le désire, mais pas du tout. mais même peut-être encore moins après avoir dansé avec lui. Le plus on s'enfonce dans le tango, dans l'apprentissage, le plus on se rend compte à quel point ça n'a rien à voir avec l'acte sexuel. Mais sur la surface, c'est ça. Quand on voit une démonstration, on ne voit pas la virtuosité de la danse. On voit un homme et une femme qui sont très enlacés, qui font des mouvements passionnés, qui se collent l'un contre l'autre, elle l'enveloppe avec ses jambes, donc on dit bah forcément. Et non.
Ce que j'ai aimé tout de suite dans la danse de tango, c'est ce rapport hyper collé à la musique, que ça me paraissait vraiment comme une représentation visuelle et charnelle de ce que j'entendais. Si on écoute les paroles, c'est des histoires d'amour tristes. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout, ça s'exprime de plein de manières qui dépassent largement les relations amoureuses, en fait. C'est comme d'aller se connecter avec ses émotions plus sombres. La rage, l'impuissance, la tristesse, peut-être le désespoir, en les jouant, en les extériorisant, en leur apportant comme une antidote qui serait l'abraço, le fait qu'on est dans les bras de quelqu'un pour le vivre.
Aujourd'hui, avec Mathias, on va essayer de un peu nettoyer les mouvements qu'on a. On ne va pas vous faire des nouvelles propositions. On va plutôt vraiment essayer de dire comment est-ce qu'on enlève le bruit qu'il y a dans les mouvements qu'on fait pour garder les choses qui est la plus juste pour déplacer son propre corps.
L'élément de base de tango, c'est la marche. Donc, on s'enlace et on marche ensemble, synchronisé. Cela dit, le tango a beaucoup évolué et quand on regarde une piste de danse dans le tango, on pourrait dire que c'est des mouvements où on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Mais quand on fait des cours de tango, c'est la marche qu'on travaille. C'est un langage parce que c'est une danse qui s'improvise sur le moment, basé sur la connaissance de chaque personne, du vocabulaire et de la technique de tango. Donc quelque part, chaque danse, c'est une conversation où chaque personne va utiliser le vocabulaire qu'elle a, les compétences qu'elle a pour converser avec l'autre.
Je suis tombée dans le tango assez jeune, j'ai découvert complètement par hasard. J'avais décidé d'aller voir une danse andalouse, je crois, enfin dans un lieu qui était pas loin. Et je me suis trompée, ce soir-là c'était tango. Et du coup je suis tombée dessus comme par surprise. Et c'était vraiment, c'est cliché, mais c'était vraiment le coup de foudre. Au bout d'un moment, je suis tombée, c'est un peu ce qui devait arriver, je pense, dans ce contexte, mais... Que du coup, en étant une très jeune fille seule dans ces endroits, on n'attire pas les bonnes personnes. Parmi les gens, j'ai envie de dire qu'il y avait des vieux très sympas qui sont, entre guillemets, occupés de moi, qui m'ont fait danser un peu, etc. Très gentils. Et aussi des sales types, en fait. Et que je suis tombée sur un sale type. J'ai une mauvaise expérience et j'ai pu foutre les pieds au tango. Par contre, le tango m'a pas lâchée à ce moment-là. Je savais que j'y retournerais. Quand je dis ça devait arriver, c'est pas pour dire que c'est une fatalité, c'est plutôt que c'est quelque chose que ensuite j'ai revu en fait, que les jeunes débutantes se font aborder par les, par finalement maintenant je sais toujours les mêmes mecs, le nombre de femmes notamment qui a arrêté le tango. À un moment, c'est pas seulement parce que le bal est difficile, c'est parce qu'en fait beaucoup ont fait des mauvaises rencontres. J'ai plusieurs amies qui m'ont dit qu'elles ont continué malgré les mauvaises rencontres et que c'était quelque chose à surmonter, qu'on dépassait l'obstacle, entre guillemets. Mais il y a cette espèce de barrage en l'entrée de dépasser les gros lourds harceleurs, agresseurs. Ce qui ne devrait pas être normal, mais finalement, bon, c'est quelque chose que, qui arrive aussi dans la vie, dans plein de domaines, quoi. C'est une communauté qui ne fait pas exception. Dans la vie courante, ça peut être dans les bars, ça peut être le moment où on drague quelqu'un et que... bah, on dépasse les limites, ça peut être où on force, où on pousse. Où on... Dans le tango, c'est la même chose, mais effectivement, on rajoute le fait qu'on est dans les bras de quelqu'un, que du coup, les gestes déplacés sont beaucoup plus accessibles aux personnes, que le doute est beaucoup plus fort pour les femmes. C'est difficile d'analyser quand on ne connaît pas le milieu du tango, qu'est-ce qui est un geste déplacé, qu'est-ce qui est un geste qui appartient au monde du tango, parce qu'il faut remettre le truc dans son contexte, le tango c'est une danse particulièrement intime, on est dans les bras de quelqu'un, et on a les seins collés contre le corps de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ça, ça fait partie du tango. Par contre, les mains qui descendent sur les hanches ou sur les fesses, non, ça ne fait pas partie de la danse. La main qui va dans le cou, ça peut arriver, mais il faut être conscient qu'il y a des gens qui ça met très très mal à l'aise. La zone grise, elle est immense en fait, et particulièrement quand on connaît peu la danse. C'est pour ça que les danseuses débutantes sont les plus vulnérables. Dans l'eau, je pense qu'il y en a qui ont juste envie de montrer qu'ils sont meilleurs, et d'expliquer, etc. D'avoir une position de force, entre guillemets, envers quelqu'un qui débute. Et d'autres qui veulent juste abuser du corps, de la chair fraîche qui déboule.
Il y a même un groupe Facebook international, secrète, où les femmes s'invitaient. Et là, tu pouvais poster avec nom, prénom, la personne qui t'a harcelé. Et dans ce groupe-là, il y avait un témoignage d'une femme qui a été violée, qui a déposé plainte pour viol contre un danseur parisien.
Je pense, à force de voir ces situations dont je parlais, ça m'a paru important de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, notamment des débutantes, mais des femmes en général.
Pour moi, créer un collectif féministe, je sais pas, ça crée du mouvement, tu vois, dans le milieu. Et de fait, il y a plein de femmes qui nous ont écrit, qui... Je crois qu'il y a quand même des trucs qui sont passés, quoi.
Moi, je vois la différence maintenant, de... arriver en Milonga et croiser ces femmes-là avec qui t'as des liens, etc., tout de suite, c'est... Il y a un truc presque rassurant, un truc plus confortable, quoi. Et parce que ouais, rien que ça.
Nous, on regarde très différemment maintenant la piste et la milonga. Quand entre les confinements, les milongas en plein air avaient lieu, il y avait un monsieur qui prétendait de les apprendre leur premier pas de tango. Et c'était des attouchements, mais tellement clairs que je sais qu'avant notre collectif, je l'aurais vu, mais j'aurais rien fait. Et là, je l'ai vu plusieurs fois et je l'ai confronté. Il m'a insulté, il l'a tout nié, etc., etc. Mais en tout cas, je sais que si maintenant j'affronte quelqu'un comme ça, il y a mes copines aussi que je peux demander à me soutenir si jamais on ne va plus fermer les yeux.
Quand t'es plutôt une femme qui suit, le plus gros de tes conversations, ça va être avec des hommes qui guident. C'est peut-être aussi pour ça qu'on cherche des lieux parfois en dehors de la milonga, genre les afters dans des bars, les festivals, les marathons, des trucs comme ça, c'est parce qu'en fait, t'as plus de moments de convivialité qui sont pas juste liés à la danse, quoi.
Il y a tout l'enjeu de la compétition et de la rivalité qui s'instaure hyper vite. Il y a beaucoup plus de femmes en plus qui ont quand même un bon niveau, enfin si on prend sur des niveaux techniques, parce qu'elles ne cessent jamais de travailler pour des enjeux justement, quelque part d'être choisies par les bons danseurs, enfin il y a vraiment ces règles-là. Et donc ça met toujours des logiques compliquées entre nous. Progressivement, il y a aussi beaucoup de femmes qui se retrouvent juste disqualifiées, par exemple, je ne sais pas si elles sont en couple ou si elles ont une vie de famille ou si elles refusent des jeux de séduction. Puis il y a la jeune qui débarque. Moi, je la vois vraiment comme la favorite qui ensuite est remplacée par une autre, qui ensuite est remplacée par une autre. Et quand on s'en rend compte qu'on a été à toutes ces places, en fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il s'arrête. Je pense que le gros contre-pouvoir qu'on peut faire, c'est que plus il y aura de femmes qui vont guider et plus on va arrêter justement cette attente à danser, on peut le faire entre nous, on peut prendre du plaisir et ça coupe une forme de pouvoir qu'ils ont de fait.
Je pense que j'ai écouté du tango avant, en trouvant ça très très beau. C'était sans doute à une époque où c'était la dictature en Argentine et où il y avait beaucoup d'Argentins dont certains faisaient du tango. Mais la danse, c'était tellement caricatural, tellement stéréotypé. Et puis un jour, dans un chat sur lequel j'étais, quelqu'un a dit oui, « mais il y a un cours de tango queer ». Je me suis dit « ah ben j'y vais ». Disons que pour moi, je savais déjà, c'était clair que c'était un truc où les rôles étaient interchangeables, où c'était les orientations sexuelles n'étaient pas forcément hétéros, et même si elles pouvaient l'être, elles n'étaient pas dans la caricature du rapport de domination. Puis pour moi, c'était la condition sine qua non pour que juste ce soit envisageable. Donc j'y vais, j'apprends un peu les deux rôles, et juste à côté du cours, il y avait une milonga ouverte, avec des gens qui dansaient de tous niveaux, des très très bons, des très mauvais. À mon âge, je ne pouvais pas espérer, si jamais je l'eusse espéré, trouver un partenaire homme qui veuille bien de moi. À partir de, je sais pas, à partir de 40 ans, peut-être même avant, si t'es pas une danseuse expérimentée, ben, tu attends. Tu attends, mais tu peux rester une soirée entière sans que personne t'invite. Donc, je te parle 40 ans, tu vois, j'en ai 65, je n'ai même pas à me poser la question. Donc, qu'est-ce que je fais? J'invite les dames qui attendent. Donc, j'ai autant de partenaires que je veux. Elles sont nombreuses. Et comme je suis débutante, je ne fais pas des trucs très compliqués. En revanche, puisque je fais les deux rôles, je sais que suivre avec quelqu'un qui fait des choses très compliquées, c'est tendu comme sensation. C'est pas relâché. Donc je vais m'appliquer à faire quelque chose de confortable pour les danseuses. Donc elles vont trouver immédiatement. Immédiatement, j'exagère. Mais oui, assez rapidement, elles vont trouver que je danse bien. Je pense pas, moi, qu'à ce moment-là, je danse bien. Je pense que je les fais bien danser. Ça a accompagné un mouvement de fond dans le monde du tango. Ce mouvement de fond, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui guident et que même les profs commencent à apprécier d'avoir des gens qui font les deux rôles, comme élèves et comme partenaires.
toute la communication très subtile dans le tango se base sur le fait qu'on doit se mettre d'accord sur ce qu'on fait, mais il y a une personne qui propose, l'autre personne qui dit « Ah, mais c'est génial, on fait ça ». Le plus en plus on maîtrise la technique et la complexité de danse, le plus ça commence à dissoudre un petit peu les barrières de ces deux rôles, le plus on commence à avoir la sensation que c'est en fait une sorte de ping-pong où on se passe la parole. Donc par exemple, moi, quand je guide, je ne peux pas juste bouger. Je ne peux pas juste rentrer dans ma partenaire et attendre qu'elle bouge. Je dois lui indiquer d'une façon très subtile qu'elle devrait se mettre en marche et ensuite je la suis telle qu'elle me suit. Et quand on a compris que c'est ces trois étapes, là on peut avoir vraiment une communication très subtile et très complexe et faire des choses très très complexe avec les jambes. Les femmes découvrent pas seulement le plaisir que ça donne de guider une autre femme, mais aussi que ça les rend beaucoup moins dépendantes de la quantité de danseurs, guideurs, hommes dans un bal. Et qu'au final, les hommes guideurs, ils sont contents aussi parce que ça les enlève la pression. Et je vois aussi des hommes qui adorent suivre les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui découvrent que guider leur colle beaucoup mieux que suivre.
Là, je mets une musique calme. Utilisez les bras, ne les oubliez pas complètement. Il y a quand même une danseuse dans les bras.
On commence à comprendre qu'un rôle, ce n'est qu'un rôle, une façon de bouger. Une façon de vivre la musique, la danse. Je me rappelle des fois quand j'ai essayé de guider une femme et j'étais dans une milonga à Buenos Aires, donc la patrie de tango. On a essayé de nous séparer. Il y avait des hommes qui étaient venus au beau milieu de la danse, au beau milieu de la piste, pour nous dire que ça se faisait pas. Mais ça, c'est vraiment déjà dépassé. Ça n'arrive plus. Par contre, ce qui arrive, c'est plus subtil. Par exemple, les hommes vont te dire « Ah, mais tu guides vachement bien pour une femme. »
Même si du coup le tango est le lieu où ça peut être difficile de dire non, ça peut être aussi un lieu d'apprentissage de dire non sans dire non, je vais boire un verre d'eau, non, j'ai mal aux pieds, non, j'ai déjà trop dansé, non, j'aime pas cet orchestre, non, on dit juste non, merci. Le tango m'a aidé à ça, je pense. Les conseils donc, que je pourrais donner à une jeune danseuse débutante, premièrement, c'est de le voir comme une communauté et donc de en fait, se faire des amis, sortir avec des gens du cours qu'on a rencontrés, qu'on connaît un peu. Mettre un pied dans ce monde-là en ayant déjà des repères et des personnes de confiance. Et du coup, la milonga est beaucoup moins hostile quand on y est à plusieurs, que ce soit pour les questions évoquées de dangerosité de certaines personnes, mais aussi de la difficulté sociale de trouver sa place, comment on est invité, comment on danse, etc. L'autre chose, c'est vraiment de se faire confiance et d'exprimer. Si on n'est pas à l'aise avec quelque chose, de le dire. Si on se donne cette légitimité, on voit tout de suite si l'autre est de bonne foi ou pas. Si vous dites que vous n'êtes pas à l'aise, normalement, il se décompose, il est désolé. Si vous dites que vous n'êtes pas à l'aise et l'autre vous explique que vous avez tort, on sait qu'on a le droit de partir. Et après, progresser, parce que plus on comprend ce qu'il y a du tango et plus on choisit ce qu'on veut faire. Moi, c'est ma vision des choses. C'est que ce n'est pas juste un loisir, un passe-temps. C'est que ça, c'est trouver le sens qu'on y met. Un moyen d'expression, un moyen de partage et un moyen de... comme une poésie, en fait.
C'était Avancer à reculons, un documentaire sonore de Céline Grillon. Merci à Véronica, Isor, Clémence, Anaëlle, Roxane et Laure. Merci également à la Milonga La Rebeldia et l'association Tango Félix, en particulier à Annick, Patrick et Alain. Merci enfin à mes camarades et professeurs du Créadoc, Angoulême, mai 2022.
J'ai demandé à Céline de nous parler de son travail, nous l'écouterons ensuite.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
La première question, Céline, que je voulais te poser, c'est comment t'es venue l'idée de travailler sur ce sujet? Est-ce que ce sont des choses dont on parle entre danseuses de tango?
Alors, en fait, j'ai d'abord voulu travailler sur le tango parce que je cherchais un sujet qui soit très sonore. J'étais en cours d'études dans le Master 1 Créadoc et j'avais fait des premières tentatives sur des sujets qui étaient assez dans le discours, dans la parole. Et je me rendais compte que j'avais de la difficulté à créer des choses belles à écouter, des choses sonores, à utiliser des sons autres que la voix dans une démarche discursive. Et donc, je me disais, ce serait bien que je choisisse un sujet qui, en lui-même, déjà porte des sonorités. Et c'est vrai que du coup, je me suis intéressée au tango. C'était quand même pas anodin dans le sens où le tango, j'ai une expérience avec le tango argentin qui m'avait laissé sur une expérience pas tout à fait positive et pas tout à fait clôturée, dans le sens où il y a plus de 10 ans maintenant, quand j'avais le début de la vingtaine, je devais avoir 21 ans, je pense, je m'étais inscrite à un cours de tango avec ma meilleure amie. C'était déjà un cours de tango queer, dans le sens où c'était un cours qui accueillait toutes les expressions de genre, les sexualités, et qu'il n'était pas imposé de... Enfin, il n'y avait aucun code de genre par rapport au rôle de danse. On pouvait apprendre à guider ou apprendre à suivre ou apprendre les deux de manière libre. Et j'avais beaucoup aimé ça, j'avais beaucoup aimé la danse, mais j'avais eu des difficultés à partir du moment où j'avais commencé à sortir dans des bals, à sortir pour danser. Il y avait une première chose qui m'avait vraiment profondément choquée, c'était de voir des femmes, souvent plus âgées que moi à l'époque, qui venaient au bal et qui ne dansaient pas. C'est-à-dire qu'elles attendaient qu'on les invite. C'était des bals où il y avait ce code des hommes qui dansent dans le rôle de guideur, des femmes qui dansent dans le rôle de suiveuse, et des invitations à la danse par le guideur, par l'homme. Donc, qui mettait les femmes dans des rôles vraiment très passifs et surtout dans une forme de dépendance. Et j'avais été vraiment très chagrinée j'avais été vraiment bouleversée, je pense même, pour dire, de voir des femmes qui s'étaient préparées, qui avaient fait la démarche de venir et qui finalement n'étaient pas invitées et ne dansaient pas. Et par contre, moi, je venais dans les bals, j'étais débutante, donc je ne dansais pas bien. Et par contre, j'étais facilement invitée. Et en fait, je trouvais ça du coup assez injuste. Et puis, je me rendais compte qu'au moins pour une certaine partie des danseurs qui m'invitaient, ils ne m'invitaient pas pour mes qualités de danse. Ils m'invitaient parce que j'étais une jeune femme de 21 ans. Et donc tout ça m'avait mis bien en colère et j'ai arrêté le tango en fait. Bien que j'aime beaucoup la danse, j'ai arrêté d'apprendre, de pratiquer, de sortir. Ma meilleure amie, elle a continué à danser le tango. Le tango a même pris une place très importante dans sa vie puisqu'elle a créé une sociabilité, un cercle social dans le milieu du tango. Et puis, quand on commence à danser beaucoup, il y a des week-ends, des festivals, ce qu'on appelle aussi des marathons de tango. Bref, le tango a pris une grande place dans sa vie. Et je pense que j'étais restée avec une sorte de curiosité. Comment est-ce qu'elle fait, en fait, pour passer autant de temps dans un milieu que moi, j'ai trouvé peu accueillant. Et puis, la connaissance, elle est très sensible, en fait, au rapport de genre, aux inégalités. Elle est féministe. Et je me disais, comment est-ce qu'elle arrive à vivre en tant que féministe avec tout ça autour d'elle. Et c'était là le point de départ du choix du sujet de avancer à reculons.
D'accord. Et quand tu as commencé à en parler, à vouloir interviewer des personnes, est-ce que c'était un sujet qui était très conscient chez elles? Et est-ce que tu as trouvé facilement des personnes qui avaient envie de parler de ce sujet-là, parmi les danseuses donc?
En fait, j'ai commencé mes recherches dans deux directions. La première, ça a été de prendre contact et de commencer à fréquenter un groupe de tango à Angoulême, là où je faisais mes études. Et l'autre direction, ça a été de en parler à cette amie et commencer à discuter avec elle de ce projet. Je crois que dès le départ, j'avais envie de parler des femmes dans le tango. Je savais que je voulais pas parler du tango d'un point de vue de la technique de la danse, ni d'un point de vue historique, mais que c'était vraiment le vécu. C'était une recherche qui, pour moi, devait faire écho à mon vécu. Et la difficulté que j'ai eue, c'est qu'en fait, le groupe de tango que j'ai contacté à Angoulême, c'était vraiment un groupe de tango très... on pourrait dire traditionnel, en tout cas qui utilisait justement ces codes très genrés de répartition des rôles dans la danse. Et de manière générale, oui, un milieu qui finalement était quand même sous une forme d'autorité masculine. Mais je pense que c'était aussi une question aussi en partie générationnelle. C'était plutôt des personnes... plutôt âgées qui dansaient, et que je pense qu'elles étaient simplement des personnes qui ne remettaient pas trop en question des rapports genrés qu'on retrouve dans la société en général, c'est-à-dire c'était pas un rapport particulier au tango, c'était un rapport particulier au rôle de genre. Donc j'ai assez vite abandonné l'idée de pouvoir tourner le documentaire avec ce groupe-là, parce que ça aurait été trop compliqué à apporter les questions que je voulais soulever. Et par contre, via mon amie qui était dans le milieu du tango, j'ai pu contacter un certain nombre de danseuses. Il se trouvait qu'elles venaient tout juste de créer, dans l'année qui précédait, un collectif féministe pour alerter sur les violences sexistes dans le tango. On peut dire qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui sont en discutée, en tout cas dans certains cercles de danse, mais que c'est quand même récent. Comme on l'entend dans le documentaire, en fait, nombreuses femmes se posaient des questions, mais peut-être en dansant, en ayant comme partenaire de danse systématiquement des hommes, elles n'étaient pas forcément en contact sur ces sujets-là les unes avec les autres. Et à un moment, la parole a commencé à se libérer. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient des expériences qui étaient similaires ou en tout cas se répondaient et qui avaient du coup quelque chose qui faisait système et qu'en fait, elles en avaient marre de ce système-là. Et que autant seule, elle n'aurait pas eu le courage ou la force, la détermination, la possibilité même de faire bouger les choses, mais qu'à plusieurs, oui.
Sur le plan, justement, sur le plan sonore, comment tu as travaillé à l'intégration de la musique?
Alors, j'ai enregistré pas mal de morceaux de tango diffusés de différentes manières. J'ai enregistré du son diffusé dans un bal à Montreuil. J'ai enregistré aussi dans une salle de tango où il n'y avait personne. J'ai passé les musiques que je voulais utiliser et je les ai enregistrées comme ça. L'idée, c'était que je voulais la musique tango, mais je la voulais... Je voulais pas que l'enregistrement arrive directement dans nos oreilles. Je voulais qu'on puisse entendre le tango tel qu'on l'entend dans les lieux de sociabilité, dans les lieux de bal, dans les lieux de cours. Et donc, c'est pour ça que j'ai enregistré des diffusions, en fait.
Donc, dans des espaces où on danse.
Exactement.
Et il y a aussi un moment où il y a dans le son, il y a une approche vraiment intérieure-extérieure, c'est-à-dire pendant tout un temps, on est dans les intérieurs où on danse, puis à un moment, on en sort et on va d'ailleurs vers un moment de manifestation. Comment t'as réfléchi cette séquence-là?
En fait, je pense que c'était quand même mes tout débuts dans le documentaire. Je ne sais pas si je les ai... vraiment complètement réfléchi à l'avance. C'est-à-dire qu'en fait, j'enregistrais les entretiens là où je pouvais les enregistrer. Pour moi, ce qui était important, c'était d'enregistrer des entretiens, pas seulement en binôme, en tête-à-tête. Je voulais enregistrer les danseuses qui s'étaient rassemblées en collectif dans une discussion collective, parce que je voulais reproduire justement aussi dans notre entretien, ce qui se passait dans leur action politique, qui était que la présence des unes des autres faisait à la fois avancer le cheminement, autorisait le fait d'aller plus loin dans le discours, dans ce que l'on dit, dans ce qu'on décide. Et donc, en fait, je les ai enregistrées chez moi, dans mon appartement parisien. Et c'est pour ça qu'on les entend en intérieur. Et j'ai aussi enregistré d'autres entretiens aussi en tête-à-tête, en plus de l'entretien collectif. La plupart ont été faits en intérieur. Il y a l'entretien avec Bianca qui est en extérieur. C'était très technique, en fait. J'avais commencé à l'enregistrer chez elle. Mais en fait, il y avait des fréquences, un son électrique qu'on n'arrivait pas à faire taire, et on est descendu dans la cour de son immeuble. Et ensuite, c'est vrai qu'on entend aussi de l'extérieur, c'est qu'en fait, j'ai enregistré la discussion collective le jour de la manifestation du 8 mars, et qu'elles avaient elles-mêmes de toute manière prévu d'aller manifester ensemble. Donc l'entretien a commencé chez moi, et puis on est descendu, et je les ai suivies en manifestation. Et du coup, il y a des choses qui étaient dites chez moi, il y a des choses qui étaient dites dehors. Donc, j'ai bricolé et j'ai créé un espèce de cheminement. Mais c'était quand même très guidé par les extraits d'entretien que je voulais utiliser. Ouais, à cette époque, je réfléchissais pas encore tout à fait déjà au montage quand j'étais dans le tournage, et j'avais pas forcément anticipé que ce poserait ces questionnements d'intérieur-extérieur. Finalement, je trouve que ça colle plutôt bien parce que on passe de paroles plutôt de témoignages et de constats vers une forme de rébellion puis d'ouverture, et que le chemin intérieur-extérieur suit un peu ces réflexions-là. Donc j'ai la chance que ça colle. Donc, il y a les entretiens, il y a les ambiances qui tiennent aux endroits où j'ai enregistré, il y a la musique, et puis il y a des sons que j'ai utilisés en plus qui, pour moi, racontaient aussi un peu cette histoire. Il y a un son de pas, de talons qui claquent un peu sur le trottoir, qui revient à différents endroits, qui, pour moi, incarnaient en fait cette marche, cette avancée, ce mouvement des femmes dans le tango, et puis qui faisait entendre aussi les talons sur lesquels traditionnellement les femmes, quand elles suivent, elles dansent dans des talons, ce qui voilà. Donc je voulais qu'on entende ça, et puis un peu les sons de café qui coule, de thé, ces choses qui pour moi symbolisent aussi le fait de s'asseoir, se mettre ensemble et réfléchir à nos conditions communes.
Justement, tu nous dis à l'époque, alors est-ce que tu peux nous dire quelle est ton actualité? Est-ce que tu as fait d'autres pièces qu'on peut écouter depuis? Et est-ce que tu as des projets en cours?
Donc moi, j'ai fait que la première année du master Créadoc. Après ça, j'ai déménagé à Caen, en Normandie, où je vis toujours. Dans l'année qui a suivi le master, j'ai eu la chance de réaliser un documentaire en immersion dans une unité de soins palliatifs dans un hôpital. Donc, c'était un projet qui avait été imaginé par l'équipe soignante qui avait envie de parler de leur travail au quotidien en soins palliatifs sous la forme sonore et qui m'a proposé de réaliser ce projet. Le fait que l'initiative soit celle de l'équipe a été, je pense, assez déterminante pour faciliter le contact avec l'ensemble des soignants, mais aussi des familles, mais aussi des patientes de l'unité. Donc, on donne comme ça la parole tour à tour aux... Ça part quand même des soignants, de leur vécu. Et puis, on donne aussi la parole aux familles, aux patients. Les envies de l'équipe, c'était... On voudrait parler des soins palliatifs tels que nous, on les vit. Et non pas tels que d'habitude, les réalisateurs, les réalisatrices projettent quand ils ou elles viennent faire soit un reportage, soit un documentaire sur les soins palliatifs. On veut que ce soit pas lugubre, parce que notre quotidien, il n'est pas lugubre. Et on veut pas que ce soit non plus, entre guillemets, cliché dans un sens opposé où tout est merveilleux, où on ne fait que se tenir les mains et sourire. Il voulait aborder la question de manière plus incarnée et pragmatique. Donc à la fois au niveau de la technicité des soins palliatifs, de la prise en charge de la douleur, des moments merveilleux comme des moments difficiles de ce travail-là. J'ai pu passer 2 semaines à tourner dans l'unité de soins. Donc j'ai enregistré à la fois des entretiens, des sons, des ambiances et aussi pas mal de situations, donc des interactions entre les soignants, les familles, les patients, etc. Et on a fait de toute cette matière, donc j'ai fait un montage avec quelques allers-retours avec l'équipe. On a fait un documentaire de 55 minutes qui s'appelle « Randonnée en bord de vie », qui a été diffusé dans l'émission Par Oui Dire sur la RTBF et sur Radio Grenouille à Marseille. Depuis l'année qui a suivi, donc en fait à l'automne, là, j'ai aussi fait un documentaire en 2 parties sur, autour de la figure de Nelson Mandela, qui a été aussi, c'était avec la RTBF que j'ai réalisé ça. Donc il a été diffusé en décembre. Et à côté de ça, j'ai d'autres projets. J'ai commencé à animer un atelier de création sonore pour amateurs, amatrices, avec un groupe ici de personnes à Caen qui ont envie de s'exercer à la création sonore sans velléité professionnelle. Donc on se réunit régulièrement en groupe et on se fait écouter les travaux qu'on a faits. On travaille les montages ensemble. L'idée, c'est d'explorer de manière assez ludique et surtout collective dans les échanges, en fait, la création sonore, parce que c'est vrai que ça peut assez rapidement devenir solitaire et que c'est sympa de pouvoir avoir des oreilles extérieures et de discuter. Donc voilà, j'anime des ateliers, j'anime aussi des stages autour de la création sonore.
Super, beaucoup d'activités donc, et puis tes dernières créations, on peut les écouter sur le portail de Par Oui Dire?
Oui, sur le site internet de Par Oui Dire. J'ai aussi un SoundCloud, mais il est maintenant saturé, donc je n'ai pas pu y ajouter le documentaire sur Nelson Mandela. Mais oui, effectivement, sur le portail de Par Oui Dire.
D'accord. Très bien, écoute, merci beaucoup Céline, et puis au plaisir peut-être d'écouter, de programmer et d'écouter de nouvelles œuvres de création de ta part.
Merci beaucoup.
nous ne pouvions pas terminer cette émission sans écouter un peu de tango. Alors voilà, un morceau d'Astor Piazzolla, Verano Porteño, par le trio Astoria Tango. c'est la fin de cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de Radio Campus Paris et sur toutes vos plateformes de podcast si vous vous abonnez. Pas d'émission dimanche prochain et nous nous retrouverons le 5 mai. À bientôt sur nos ondes.
Récréation sonore sur Radio Campus Paris.
Ну вот, так. Сна, Алиса.